Chapitre 29. Pandore. Diamante frappa dans ses mains en entrant dans le sérail.
Mesdemoiselles, mesdemoiselles, s'il vous plaît, approchez-vous.
Les nourricières s'avancèrent pour former un cercle autour d'elles, y compris Moebia, soutenue par Alix et Leonarda. Seuls Carmine et Errance, occupés à secouer un hochet devant Perry, ne bougèrent pas.
« Allons, mesdemoiselles, cela vous concerne, vous aussi. Laissez cet enfant quelques secondes, il ne va pas se sauver à travers les barreaux de son parc. »
Elles obéirent à regret à l'impératrice et constatèrent avec plus de regrets encore que Perry se désintéressait immédiatement d'elles, ensevelie sous une montagne de peluches et de jouets. Elles avaient encore en mémoire les pleurs de Sélénée, du réveil au coucher, au point qu'Ogénor avait dû rendre la fillette à Chrysante et Bile, ses parents adoptifs, enfermés dans une des cellules du palais. Diamante compta les nourricières dans sa tête. 10 Fanfan, 11 Leonarda, 12 Suzy, 13 Cheyenne, 14 Moebia, 15 Alix, 16... La fille au visage brûlé se tenait elle aussi devant elle. Elle appartenait à la corporation des teinturiers, puisqu'elle avait été faite prisonnière lors du pillage de son village, 6 semaines plus tôt, mais personne n'était parvenu à l'identifier, et elle refusait de parler. Pourtant, d'après Galien, ses cordes vocales n'avaient pas été touchées. Diamante l'avait prise en pitié et installée au sérail. Elle percevait chez elle une force de caractère hors du commun.
« Mesdemoiselles, fit la gitante en s'éclaircissant la voix, « l'empereur va vous faire l'honneur d'une visite, dans moins d'une heure, ce qui signifie que vous n'avez que peu de temps pour vous préparer. Je compte sur vous pour vous surpasser. Les prémats du palais ont ciré vos escarpins et repassé vos robes. Vous disposez dans ce sérail de tout le nécessaire et même le superflu pour être impeccablement maquillé, manucuré, coiffé. » Une dizaine de nourricières s'éparpillèrent aussitôt en gloussant. Les autres ne bougèrent pas. Alix en tête, et derrière elle, l'ensemble de celles qui se faisaient encore appeler les Lolly Girls ou Mousquetaires de la Reine. Diamante les dévisagea une à une, puis finit par céder.
Comme vous voulez, mais ne venez pas vous plaindre ensuite si vous êtes maltraitée.
Alix fixa autour d'elle les bouquets de fleurs de tiare. Dans les corbeilles de fruits, les oranges et les citrons avaient été remplacés par des kiwis et des ananas.
« Maltraitée ? » ironisa-t-elle. « Mais de quoi pourrions-nous bien nous plaindre ?»
Elle posa ostensiblement ses deux mains, bien à plat, sur son ventre, et ne put s'empêcher d'échanger un regard avec la teinturière défigurée. Le temps d'une seconde, Diamante fut persuadée qu'elle se connaissait, et qu'elle aussi avait déjà croisé ce regard quelque part. Quand Ogénor entra dans le sérail, les nourricières dociles s'étaient activées. Une odeur d'eucalyptus parfumait la pièce. La couche de Perry avait été changée, les coussins orientaux époustés, les vitraux astiqués, même si le gris de l'automne ne laissait guère filtrer de luminosité. Les nourricières avaient compensé en allumant des bougies de lavande et de camomille, suivant les conseils de Diamante en chromothérapie. Le contraste était frappant, entre la bande de Lolly Girls sauvageonnes, décoiffées et habillées de blouses informes, et les nourricières rivalisant d'élégance dans leurs toilettes féminines sophistiquées. Elles se rangèrent en haie devant le fauteuil roulant, portant fruits et fleurs, chacune se tortillant, persuadée d'obtenir le premier sourire du grand cerf. Il roula pourtant au milieu d'elles sans tourner la tête, semblant à peine les remarquer, manquant même de renverser les plus empressés. Il traversa le sérail pour se rendre directement au bassin au bord duquel Alix s'était négligemment assise.
« Ma reine !» lança Ogénor avec un sourire qu'on ne lui avait pas connu depuis une éternité. « J'ai cru te perdre tant de fois. Nous voici enfin réunis !»
Alix restait muette, figée.
« J'ai appris pour ta chute. » « Rassure-moi, Majesté, tu n'as plus mal nulle part. J'ai personnellement demandé à Galien de prendre soin de toi. »
Alix crispait ses mains sur le cou de cygne de la fontaine.
« Et nos amis, tu as des nouvelles ? Zizo, Sabi, Akane et les autres, il faudrait qu'on se voie tous un de ces jours, qu'en penses-tu ? Et que penses-tu de ce sérail ? Tout est parfait, n'est-ce pas ? Quand je songe à ces savants, Liu, Braza, Osman et tous nos autres pauvres amis en prison. Mais je parle, et toi, ma reine, as-tu des questions ?»
Alix se leva d'un coup. Elle sentit Diamante ainsi que l'ensemble des nourricières dociles se raidir à ses côtés. Toutes avaient compris que quelque chose allait exploser.
« Juste une, Ogénor !»
Elle fixa l'empereur droit dans les yeux.
« Qu'as-tu fait à nos corps ?»
Ogénor encaissa sans broncher. Alix porta un second coup.
« Tu es venu pour discuter ? Alors discutons. Entre adultes, puisque nous sommes adultes, pas vrai ? Il y a une vérité que tu ne peux nier. Nous sommes enceintes, presque toutes. Le ventre de certaines nourricières s'est arrondi depuis leur arrivée au sérail. Après discussion entre nous, oui, vois-tu, Ogénor, nous discutons. Nous sommes parvenus à une certitude. Nous sommes tombées enceintes pendant notre sommeil, lorsque Galien nous a convoqués dans son laboratoire, encadré de 4 SSS, et nous a endormis, soi-disant, pour nous examiner. »
Ogénor paraissait maintenant amusé.
Continue. Moi aussi, j'ai suivi les cours de Marie-Lune et de quelques savantes comme Moebia. Nous savons que, dans l'Ancien Monde, les techniques d'insémination artificielle étaient parfaitement au point et qu'il suffit de quelques minutes, un jour d'ovulation bien choisi, pour nous féconder.
Derrière Alix, les Lolly Girls approuvaient. Visage fermé, tel autant de louves prêtes à mordre. À l'inverse, les autres nourricières hésitaient, même si toutes devaient admettre l'effroyable vérité, Ogénor utilisait leur corps pour porter des bébés. Mais aucune n'aurait eu le courage, comme Alix, de l'affronter.
Tu as terminé ?
Fit Ogénor.
Tout dépendra de ta réponse.
Elle sera peut-être un peu longue et compliquée, alors je vais commencer par une histoire.
Connais-tu celle de Pandore ?
La Pandorite, pensa Alix. Cette météorite mortelle, baptisée ainsi parce que selon la légende, la boîte de Pandore contenait tous les maux du monde.
Je ne te parle pas du mythe que tout le monde connaît, poursuivit Ogénor comme s'il lisait dans ses pensées, mais de l'histoire de sa famille.
Les parents de Pandore, Deucalion et Pyrrha, furent les seuls mortels qui survécurent au déluge. C'est-à-dire, mesdemoiselles,
il se tourna vers celle qui n'avait jamais entendu parler de mythologie grecque,
un cataclysme ayant ravagé toute l'humanité. Vous imaginez, quelle fut alors leur mission ? Repeupler la Terre, bien évidemment. Et pour cela, avec leur fille Pandore, ils semèrent derrière eux les os de leur grand-mère. Gaïa, la terre. De simples pierres qui, en touchant le sol, devenaient des hommes et des femmes.
Et alors ? Le coupa Alix.
Et alors, mesdemoiselles, vous êtes ces eaux et vous portez ces pierres. Vous êtes Gaïa, vous êtes la terre. Vous êtes les élus, car je vous ai choisis comme tels. Vous êtes la poignée de femmes qui repeupleront le monde. Pour les prochaines générations, vous serez à jamais Pandore, Pyrrha et Deucalion, à jamais les premières, les fécondes, les pionnières.
Certaines nourricières frémirent, flattées, mais la plupart continuaient de douter. À celles qui avaient été recrutées par Diamante, on avait certes fait miroiter de s'occuper de bébés, mais pas d'en porter un, dont elles ignoraient tout du père.
« Si au moins tu nous avais demandé !»
osa murmurer Errance. La cajoleuse était l'une des premières à être entrée dans le sérail, et l'une de celles dont le ventre était le plus rond.
« Allons, mesdemoiselles, vous connaissez le modèle sur lequel est fondé le Troisième Empire. Ces sociétés parfaites que forment les abeilles, les fourmis,
les rataupes !»
ajouta Leonarda.
Ogénor continua sans relever. Un éclat de folie éclairait son regard.
« Souvenez-vous, ces sociétés parfaites possèdent toutes une caractéristique
commune, une seule, un unique géniteur. Ne soyez pas effrayées, mesdemoiselles. Je peux vous le jurer, c'est ma semence, et uniquement elle, qui vous a été offerte. Comprenez-vous cet honneur historique? Vous portez toutes les fils et les filles de l'empereur.
Devant le délire manifeste du grand cerf, les nourricières, même les plus soumises, échangèrent des regards affolés. Diamante paraissait tout aussi perdue. Une nouvelle fois, Alix fut la seule à oser défier l'empereur.
Excuse-moi, Augénor, mais ta théorie de l'unique reproducteur est débile. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais nous ne sommes ni des abeilles, ni des fourmis. Ton empire est constitué de filles et de garçons de 18 ans. Et je peux t'assurer que chaque jour, dans les corporations, naîtront des bébés dont tu ne seras jamais le père.
Son regard, malgré elle, glissa vers le petit Perry.
Ils naîtront, même si c'est interdit par l'article 1 de ton foutu code impérial, car les garçons et les filles de ton empire s'aimeront. Et tu auras beau les traquer, les parents se cacheront et leurs amis les protégeront. Tu as beau être le plus grand cinglé que le monde ait porté, tu ne pourras pas tous les tuer.
Elle regarda à nouveau Perry, qui jouait avec une toupie de bois, et le regretta. Augénor serra sa canne entre sa main. Un instant, Alix crut qu'il allait craquer, la frapper, mais il se contenta finalement de sourire.
« Je t'avais promis de répondre à ta question, ma reine. Je l'ai fait. Pour le reste, fais-moi confiance. Tu me connais, je sais ce que je fais. Et je n'échoue jamais.
Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ce projet ?
Diamante avait exigé d'Augénor qu'il la rejoigne dans leur chambre quelques minutes après sa visite au sérail. L'impératrice avait jeté son diadème, libéré ses longs cheveux noirs, arraché une partie de sa robe de taffetas et fait valser ses escarpins à l'autre bout du salon Pompadour. Une furie. Augénor, à l'inverse, paraissait simplement agacé et pressé, comme s'il avait déjà accordé trop de temps à s'expliquer. Il rangea son fauteuil contre le lit à baldaquin et soupira.
« Je ne t'ai jamais rien caché. Ces nourricières doivent s'occuper des enfants qui repeupleront la terre. »
Diamante dominait l'empereur de toute sa haute taille.
« S'occuper d'un enfant? Ce n'est pas la même chose que de le porter dans son ventre.
Tu connais un meilleur moyen de les protéger. »
L'impératrice, furieuse, attrapa un soliflore de cristal posé sur la table de chevet. Elle enleva la rose, vida l'eau croupie, et s'avança furieuse, prête à frapper Augénor.
Ne joue pas avec les mots. Tu m'as prise pour une idiote. Tu m'as caché les expériences ignobles de ce monstre de Galien. Et pire encore, que tu étais le père de ces bébés.
Augénor retint la main de l'impératrice avant qu'elle ne fracasse le vase sur son crâne. Il serra son poignet jusqu'à ce qu'elle lâche le soliflore. Le vase se brisa en une pluie de cristal contre les barres d'acier de son fauteuil.
« Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop. Qu'est-ce que cela change? Tu n'es pas fière que ce soit mes enfants qui repeuplent la terre? »
« Qu'est-ce que cela change? Tu ne comprends pas. »
Diamante tremblait de rage. Augénor attendit qu'elle se calme pour relâcher son étreinte. Petit à petit, elle s'apaisa. Elle marcha dans la chambre, pieds nus sur le tapis, et finit par murmurer.
« J'aurais tant aimé t'offrir un unique héritier. »
À chaque pas, de nouveaux éclats de cristal s'enfonçaient dans ses pieds.
Et tu n'aurais pas eu besoin de demander à Galien de m'endormir.
Elle posa sa main sur le torse d'Augénor, se pencha pour l'embrasser. L'empereur ne fit qu'effleurer les lèvres de Diamante avant de faire pivoter son fauteuil.
Nous avons tout le temps pour cela. D'ici là, veille à ce que les nourricières ne manquent de rien, à l'exception de la menthe magique qui leur sera désormais interdite. Qu'elles restent en forme, mais ne prennent aucun risque physique. Qu'elles mangent à leur faim tout en faisant attention à leur alimentation. Tu ne feras qu'une exception.
De petites gouttes de sang coulaient entre les orteils de l'impératrice.
Tu placeras Alix à l'isolement.
pendant un mois, sans aucun contact avec les autres nourricières. Elle n'aura à manger et à boire que si elle présente des excuses, ou que le trésor qu'elle porte dans son ventre est en danger.
« J'y veillerai, » affirma Diamante, le visage fermé.
Eugénor eut un dernier regard pour elle. « Tu m'as déçu. Ne me rejoue jamais une telle comédie. » Il sortit. Diamante, titubante, s'avança jusqu'à la fenêtre de la chambre. Des larmes noires coulaient de ses yeux trop maquillés. La pluie d'automne rebondissait sur le toit du palais. Un mètre au-dessus d'elle, sous le fronton, un pigeon voltigeait.